de Chartreuse.
Votre magazine d'infos locales.
Échanges.
Curiosités.
Divertissements.
Infos de proximité.
Actions culturelles et éducatives.
Environnement.
Bouillon de Chartreuse.
C'est en Chartreuse.
Pour la Chartreuse.
Rien qu'en Chartreuse.
Voici un bouillon de Chartreuse spécial lecture en milieu rural, car évidemment, lire fait grandir les cultures. Alors le 8 juin à Miribel-les-Échelles, il y avait un événement culturel appelé Lecture Commune. Radio Couleur Chartreuse a reçu en amont les principaux organisateurs, Monsieur Croza et Monsieur Mollard. Nous nous sommes aussi rendus sur place le jour de la manifestation afin de faire des prises de son. Et voici le résultat, un mélange d'interviews et de contes, tout ça autour de la lecture bien sûr. Donc bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Mollard. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Bernard Croza, on va parler lecture aujourd'hui. Alors déjà, il y a un événement le 8 juin à Miribel-les-Échelles. Est-ce que monsieur Mollard, vous pouvez nous expliquer de ce dont il s'agit ?
C'est une réunion sur le marché avec une lecture à voix haute qui va se dérouler sur les contes. Les fables de La Fontaine, Jean de La Fontaine. Ces fables seront lues par l'école, la grande classe de CM, hein, ils vont lire 5 ans, et puis après les bénévoles de Lire et Faire Lire, et des gens du village, chacun, pour le micro est ouvert, pour que pendant une heure, on fera une lecture à voix haute. Lecture à voix haute a été en fait par Lecture Commune, qui est une association des maires ruraux de France.
Oui, je ne savais pas qu'en fait c'est national comme événement.
Oui. Les maires ruraux de France envoient une revue, et dans la revue, si on va sur Internet, on peut voir, si on clique Grenoble, on voit Miribel-les-Échelles, 8 juin, lecture à haute voix sur le marché. Et le soir, là je vais passer la parole à Bernard, le soir, lire entre nous, organisé par la bibliothèque. Dans la même journée, il y a 2 événements. Bernard, à toi.
Donc, oui, lire entre nous, qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors, donc, Jean-François a expliqué, hein, donc, cette journée se situe dans le cadre de la lecture commune, donc, organisée tous les ans, hein, par l'association des maires ruraux, et cette année, Miribel a souhaité participer à cette opération. Alors, lire entre nous, c'est la deuxième édition, hein, qui est faite. Donc, le principe, c'est organisé par la bibliothèque, mais la commission culture aussi de la municipalité donc soutient d'ailleurs les deux opérations, c'est-à-dire lecture de fables de La Fontaine le matin et puis cette opération. Alors, lire entre nous, c'est la deuxième édition, on l'a fait l'an dernier. Donc le principe, c'est d'avoir des échanges de lecture entre les bénévoles de la bibliothèque et des lecteurs, à partir d'une liste d'ouvrages qui ont été sélectionnés par les bénévoles de la bibliothèque et qui ont lu les livres sélectionnés et qui se sont fait, si vous voulez, des fiches de lecture sur leurs impressions de lecture.
D'accord, c'est un échange.
C'est un échange, oui, tout à fait.
Il y a une bibliothèque à Miribel.
Alors, il y a une bibliothèque à Miribel, oui, qui est d'ailleurs importante, qui fonctionne avec des bénévoles et avec aussi une salariée. Et on a à peu près près de 500 adhérents, disons, hein, un peu moins. Avec un fonds documentaire aussi qui est de l'ordre de 6000 ouvrages, mais on travaille aussi avec la bibliothèque départementale de l'Isère.
Cette manifestation a été organisée par les bénévoles de Lire et Faire Lire de Miribel. Lire et Faire Lire en France, c'est plus de 17 000 bénévoles et 9000 structures. En Isère, 300 bénévoles, 127 structures. À Miribel, 5 bénévoles et 3 structures. Le but de cette association, c'est de ne pas apprendre à lire aux enfants, mais leur donner l'envie de découvrir et ouvrir un livre, en plus d'échanger avec nos générations, puisque pour lire et faire lire, il faut avoir au minimum 50 ans. J'excuse Émilie Gagnère, notre coordinatrice en Isère, auprès de la Ligue de l'enseignement. Elle devrait être là, mais elle a une autre école
dans le Nord-Isère. Voilà. Maintenant, monsieur le maire veut peut-être nous dire autre chose. On le remercie de sa présence.
Donc, devant le fait accompli, je suis obligé de dire deux mots. D'abord, je suis très content qu'il y ait les enfants de l'école primaire qui assistent et qui vont participer à cette manifestation. Très content aussi qu'il y ait des personnes de l'EHPAD et notamment remercier les personnes qui les accompagnent. Donc, place aux lectures et aux contes.
La classe de madame Choupa a décidé de lire quoi donc ? L'agneau, le loup et l'agneau.
Le loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Soudain, un loup survint à Jean qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vois désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puisse troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette brette cruelle. Et je sais que de moi, tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens.
On me l'a dit, il faut que je me venge. Tu le dévorais, le loup l'emporte et le mange sans aucune forme de frais.
Bravo les enfants. Le corbeau et le renard.
Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage.
Eh, bonjour corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau.
Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.
À ce moment, le corbeau ne sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie.
Le renard s'en saisit et dit...
Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui
l'écoute.
Ce sont vos biens fromages, sans doute.
Le corbeau
honteux et confus jura, mais un peu tard qu'on l'imaginait plus. Jean de La Fontaine.
Bien. Et vous avez vu que vous aviez un camembert. On ne le mangera pas, il faudra le rendre. Le chêne et le roseau.
Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous n'essayez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents ne sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon, accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent en redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine. Celui à qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient l'empire des morts. Jean de La Fontaine. Merci.
Alors, il y a encore deux groupes de l'école, mais on va faire un petit break. On va demander à l'EHPAD. Qui c'est qui veut dire quelque chose de l'EHPAD ? On a ?
Le laboureur et ses enfants.
Allez, vas-y, dis.
Le laboureur et ses enfants prenaient de la peine, sa riche labour, avec sentence à mort prochain.
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoin.
Sans témoin. Dire, gardez-vous lorsque le vendre l'héritage que nous ont laissé à nos parents un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit.
Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'eau. Creusez.
Creusez, bêchez.
Fouillez, bêchez. Ne laissez nulle trace.
La main.
Ne passe et repasse. Le père mort.
Oh.
Les fils vous retournent le champ.
Champ.
De ça, de là.
Si bien qu'au bout de là, ils ramassaient beaucoup d'argent.
D'argent, point de cachet.
Hmm.
Mais le père. Le père fut sage de leur montrer avant sa mort.
Que le travail c'est le trésor.
C'est un trésor.
Bravo.
Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Faut mieux aller en face chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les verres à porter l'écriture. On s'est pointé à 20, en habit d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché sous un verre à liqueur. Depuis quand on y cause, on sait que c'est en bronze, c'est quand même plus chouette. On commande son livre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque. Au café littéraire, on s'y prend déjà l'air d'être au petit Larousse. On pose en attendant le jour où nos 20 ans seront cotés en bourse. On écrit sur les nappes, on porte des écharpes, on brise des pianos. On crie le paraboire, on payera plus tard en coupure de journaux. Café littéraire, y'a guère que la tolière qu'aime pas la lecture. Mais les lignes des pauvres, elles t'en lirait 20 tomes au travers des ratures. Quand le bateau est ivre, qu'on a bu tous les livres, on repart en carafe. Comme on paye qui sait qu'on déduit sur le chèque le prix de l'autographe. Chauffeur à l'horizon, on s'affale du long sur nos chariots à voile. Le vent vient allumer le bout d'un cache-nez au briquet des étoiles. Au matin, pêle-mêle, froissé dans les poubelles, des hommes emporteront des chefs-d'œuvre en friche sur du papier sandwich et des nappes en crépon. Mon café littéraire, suivez l'itinéraire, c'est sous le dernier penche. Juste après la virgule, ce troquet qui recule à mesure qu'on s'approche. L'arbre sur le seuil sème comme un recueil ses feuilles de brouillon. Et où ses branches peignent en ombre sur l'enseigne le chapeau de nylon.
Est-ce que vous pensez qu'on lit plus à la campagne qu'à la ville ?
Moi, je pense oui. Surtout l'hiver, parce qu'il n'y a pas de jardin à faire.
Oui, et puis il faut du temps, il faut un rythme de vie pas trop speed.
Et malgré que les gens ne sont pas érudits, qu'il faut dire, les gens aiment lire. Parce que quand on rentre dans un bouquin, on s'en va de la neige qui est autour de soi, de la grisaille.
Oui.
Et l'hiver, on a beaucoup plus de lecteurs que l'été. L'été, il faut aller faire son jardin, aller se balader, c'est différent.
D'accord.
Mais les Mirbelins fréquentent bien la bibliothèque.
Oui, parce qu'on dit souvent que les gens ne lisent plus à cause des nouvelles technologies, l'ordinateur et tout ça. Peut-être qu'à la campagne, ils sont moins touchés, justement, par ce phénomène.
Oui, mais moi, je dois dire que cette opération, c'est une incitation aussi à lire et à faire partager des plaisirs de lecture. Moi, on l'a très bien ressenti l'an dernier.
Mmh.
À travers les échanges qui peuvent y avoir entre les lecteurs donc des livres sélectionnés et puis le public qui est venu.
Le renard et le bouc.
Le renard et le bouc, c'est une fable qui n'est pas connue de tout le monde, peut-être, mais on va encore voir ce que le renard, les pièges qu'il va pouvoir faire, le méchant renard. Bon. Alors, capitaine renard allait de compagnie avec son ami bouc des plus hauts en cornée. celui-ci ne voyait pas plus loin que le bout de son nid. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent repris, le renard dit au bouc : Que ferons-nous, compère ? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur. Le long de ton échine, je grimperai premièrement, puis sur tes cornes m'élevant, à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci je sortirai, après quoi je t'en tirerai. Par ma barbe, dit l'autre, il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui faites un beau sermon pour l'exhorter à patience. « Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts. Car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. » En toute chose, il faut considérer la fin.
On repasse un coup. La cigale et la fourmi.
La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'autre, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse,
c'est là son moindre défaut. » Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise.
Eh bien, dansez maintenant, Jean de la Fontaine.
Geneviève, qu'est-ce que tu voulais chanter ou réciter? La grenouille et le bœuf.
La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille, elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez ? Dites-moi, n'y suis-je point encore ? Néni, m'y voici donc ! Point du tout. M'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages.
La poule aux œufs d'or.
L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux, pour le témoigner, que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches ? Jean de La Fontaine.
Laboureur et ses enfants.
Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Jean de La Fontaine.
Le loup et l'agneau.
La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous n'allons voir tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Vint un loup à jeun qui d'aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon veuvage ? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et qu'en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, répond cet animal plein de rage. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Je tète encore ma mère, reprit l'agneau. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès.
Merci.
Alors l'école, on finit la dernière ? Le lièvre et la tortue.
Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point. Sitôt que moi ce but, sitôt êtes-vous sage, repartit l'animal léger. Ma commère, il faut vous purger avec 4 grains d'élébor. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait et de tous deux, on mit près du but les enjeux.
Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps pour rester, pour brouter, pour dormir et pour écouter, d'où vient le vent ? Il laisse la tortue aller à son train de sénateur.
Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui cependant méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose. Il s'amuse à toute chose, qu'à la gareur. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi, l'emporter, et que sera-ce si vous portiez une maison ?»
Jean de La Fontaine.
Je
c'est dans un quartier désert, un coin qui se donne des airs de province aristocratique. J'y découvris l'autre saison, encastrée entre deux maisons, une minuscule boutique. Un gros chat noir était vautré sur le sol quand je suis entrée. Il leva sur moi ses prunelles, puis il eut l'air en me voyant de se dire « Tiens, un client, quelle chose sensationnelle !» Ce magasin d'antiquité excitait ma curiosité par sa désuète apparence. Une clochette au son fêlé se mit à tintinabuler dans le calme et tiède silence. Soudain sortit, je ne sais d'où, un petit vieillard aux yeux doux, et me fit un grand salut baroque. Et j'eus l'étrange sentiment de vivre un très ancien moment, fort éloigné de notre époque. Je marchandais un vieux bouquin, dont la reliure en maroquin gardait l'odeur des chambres closes. Lorsque je ne sais trop comment, je me mis au bout d'un moment à parler de toute autre chose. Mais le vieux ne connaissait rien, quel étonnement fut le mien de constater que le bonhomme ne savait rien, évidemment, des faits et des événements qui passionnaient les autres hommes. Il ignorait tout de ce temps, aussi bien les gens importants que les plus célèbres affaires. Et c'était peut-être cela qui, dans ce tranquille coin-là, créait cette étrange atmosphère. J'acquis le bouquin poussiéreux et je partis le cœur heureux. Le chat noir toujours impassible, dans un petit clignement d'yeux, parut me dire malicieux, tu ne croyais pas ça possible. Je m'en allais, et puis voilà, mon anecdote finit là, car cette histoire ne comporte ni chute, ni moralité. Mais quand je suis trop affectée par les potins que l'on colporte, par les scandales dégoûtants, par les procédés révoltants des requins de la politique, afin de mieux m'éloigner d'eux, je vais passer une heure ou deux dans cette petite boutique.
Est-ce qu'il y a d'autres idées qui sont reprises, par exemple installation d'une boîte à livres, ce genre de choses, vous n'avez pas encore tenté ?
Alors des boîtes à livres, il y a des boîtes nomades qui existent.
Il y a une boîte à lire, une boîte disponible à la boulangerie du village, où on pose son livre et il n'est pas coté, rien. On le pose sans adhérer à rien. Et puis c'est différent de la bibliothèque, où la bibliothèque, on a un numéro d'adhérent, on prend 3 livres pour 3 semaines, tout à fait différent.
Et est-ce que à Miribel, ça se fait la lecture sur tablette ou...
Non.
Parce que le pays
on a essayé, on a essayé, mais ça n'a pas marché.
Ah oui ?
Oui, la lecture sur tablette. On a eu pendant deux mois... la BDI, la Bibliothèque départementale de l'Isère, nous a déposé 6 ou 7 tablettes et ça n'a pas été, parce que il faut dire que c'est mieux de toucher son papier que d'avoir ça sur ses oreilles.
Oui, c'est vrai que le principe est tellement différent.
Voilà.
Moi, je lis beaucoup, j'imaginerais pas du tout lire sur une tablette. Après, les gens qui ont essayé disent que c'est pas du tout comme un écran d'ordinateur, que ça agresse moins les yeux, mais bon. Pff,
non, c'est pas pareil.
Au niveau du contact.
C'est deux méthodes tout à fait différentes.
Oui.
De façon de voir.
On va carrément changer de structure. Christiane va nous lire Le Corbeau et le Renard en argot. Façon Pierre Perret.
Maître Corbeau, sur un chêne mastard, tenait un frometon dans le clapoir. Maître Renard reniflant qu'au balcon quelques sombres zonards débouchaient les flacons, lui dit « Salut Corbette, c'est vous que je cherchais. À côté du costard que vous portez, mon cher, la robe du pan du soir est une serpillière. De plus, quand vous chantez, il paraît sans char que tous les merles du coin en ont des cauchemars. » À ces mots, le corbeau, plus fier que sa crémière, ouvrit grand comme un four son piège à ver de terre. Et en tenant Rigoletto, il laissa choir son calando. Le renard lui pique et dit « Apprends mon gars, que si tu ne veux point tomber dans la panade, n'esgourde point celui qui te passe la pommade. »
Le Chenel Roseau.
Alors, je vais essayer de le dire, mais les enfants l'ont déjà dit tout à l'heure. Je veux leur demander, vous savez ce qu'un chêne, c'est quoi, les enfants ? Un arbre. Il est grand comment ? Il est très grand. Et un roseau ? C'est petit, voilà. Bon. Alors, le chêne et le roseau. Le chêne, un jour, dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un rotelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à courber la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résister sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Jean de La Fontaine.
Et donc, le rendez-vous est à quelle heure, le vendredi 8 ?
Le vendredi 8, 10h30 et jusqu'à 11h30. Pour les lectures. Les lectures, alors j'ai dit qu'il y aurait, il va l'école et les bénévoles de la bibliothèque. Et là-dessus, ce sera entouré par les deux classes de maternelle qui vont venir écouter leurs grands et écouter ou bien sûr les autres. Et j'ai démarché aussi l'EHPAD qui viendra amener quelques adhérents, quelques résidents. Pensionnaires autonomes. Il y aura un mélange entre les petits, les vieux, nous, qui lisons, puisque pour lire et faire lire, il faut avoir plus de 50 ans.
Hein. Ah bon ?
Oui, lire et faire lire, on ne va qu'à partir de 50 ans. Pour l'échange entre générations.
D'accord.
Voilà. Et il y aura aussi un échange, une vue qui sera pour les petits avec ceux qui sont plus les adultes handicapés. Je pense qu'on aura un bon plateau.
Oui, non, mais je trouve que c'est intéressant parce que là, c'est vraiment, on est sur l'intergénérationnel.
Oui.
Et notamment en associant les résidents de l'EHPAD, enfin la maison de retraite, hein, on a là une ouverture, si vous voulez, de cette maison de retraite sur le village, hein, ce qui est bien. Et en faisant venir les enfants des écoles aussi, on mixe les âges. C'est très, très bien.
La cigale et la fourmi.
La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue.
pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. » « Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Chant de La Fontaine.
Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau. Tant les chiens faisaient bonne garde, ce loup rencontre un dogue aussi si puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup l'eût fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra à vous qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, » lui répartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils sont misérables, cancre, air et pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi, rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez bien un meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ?»« Oh, presque rien, » dit le chien, « donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. » Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là ? » lui dit-il. « Oh, rien. »« Quoi, rien ? » ?»« Peu de choses. » »« Mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez peut être la cause. »« Attaché, » dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » ?»« Pas toujours, mais qu'importe. » « Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore.
Oui, puis c'est vrai que souvent les personnes âgées en rapport avec la lecture qui est différent de notre époque, pour eux c'est vraiment... J'étais allée à l'EHPAD de Béatrice de Savoie et il y avait un spectacle au sujet de Mondrain. Ils se rappelaient tous avoir lu le livre quand ils étaient petits.
Oui, pour moi j'ajouterais que pour les fables de La Fontaine, certains résidents les savent par cœur.
Ah bon ?
La semaine dernière à Miribel, on a fait une présentation, une répétition pour voir comment on ferait. Après, je suis allé au café des rencontres, où il y a des gens de mon âge. On m'a récité deux fables de La Fontaine sans aucune faute.
Ah oui, ça fait travailler la mémoire en plus.
Voilà. Parce qu'ils l'avaient appris quand ils ont passé le certificat d'études en 1950. et ils s'en souviennent encore.
Oui, c'est vrai. Moi, je suis étonnée, les enfants à l'école, maintenant, on ne leur fait pas apprendre par cœur, c'est beaucoup moins...
La différence, c'est différent. Ils apprennent différemment, mais ils sont aussi intelligents que nous.
Oui, mais au niveau de la mémoire, j'ai l'impression que c'est pas du tout pareil.
Voilà. Voilà, on a plein de gens qui nous font beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir. Parce que lire et faire lire, qu'on est cinq.
La laitière et le potolet. Perrette sur sa tête, ayant un potolet bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courvêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens, quittant son œil mari, quittant d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le potolé. Jean de La Fontaine.
Bouillon de Chartreuse.
Votre magazine local, culturel, éducatif, économique et environnemental.
Pour savoir ce qui se passe autour de chez vous.
C'est le samedi et le dimanche à 11h.
Et donc, Miribel a l'air d'être un village très actif, de plus en plus.
Bien sûr. Il a toujours été très actif, Miribel.
Oui.
Non, mais la commission culture a un programme qui est assez étoffé. Ben, on a eu, par exemple, la clôture du spectacle du Festival Zygomatique. Hein.
Ah oui.
Avec Instinctaf, et puis on va enchaîner la saison culturelle avec plein de manifestations.
Et puis peut-être on peut déjà nous dire en février 2019, MC2 viendrait se délocaliser à Miribel pour un mini concert, non pas concert.
Si, concert, oui.
Un opéra.
Un opéra, oui.
Les Petites Noces de Figaro qui dureront 1h15. Et je suis en train de travailler avec la directrice de l'école et un enseignant, que les élèves viennent en chœur chanter le terminal avec les 4 musiciens du Louvre de Grenoble et seront accompagnés en plus par un soprano, et un baryton de la faculté de Amsterdam.
D'accord.
C'est un beau projet, ça.
Il y a beaucoup d'enfants à Miribel. Il y en a combien, à peu près?
114, 140.
140.
Entre 100 et 120, 140. Voilà. Bon. Il y en a plus de 100, ça c'est sûr, mais 140 c'est peut-être un peu trop, mais 120 je suis sûr.
Eh bien, moi je vais finir,
hein,
parce que je suis le meilleur. Non. Après, je passerai la parole à monsieur le maire adjoint à la culture qui vous animera pour ce soir. Bon, alors moi, c'était le renard et la cigogne. Compère, le renard se mit un jour en frais et retint à dîner, commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut servi par lui sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit, surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser
en un vase au long col et d'étroites embouchures. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il eût fallu à jeun retourner au logis. Honteux, honteux, comme un renard qu'une poule aurait pris. Serrant la queue et portant bas l'oreille, il s'en vu. Honteux, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, si vous jugez, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. Allez!
Je ne suis pas littérature, je ne suis pas photographie, ni décoration, ni peinture, ni traité de philosophie. Je ne suis pas ce qu'on murmure aux enfants de la bourgeoisie. Je ne suis pas saine lecture, ni sirupeuse poésie. Je ne suis qu'un cri. Non, je n'ai rien de littéraire. Je ne suis pas morceau choisi. Je serais plutôt le contraire de ce qu'on trouve en librairie. Je ne suis pas guide ou bréviaire, ni baratin, ni théorie, qu'on range entre deux dictionnaires ou sur une table de nuit. Je ne suis qu'un cri. Je n'ai pas de fil à la patte, je ne viens pas d'une écurie. Non, je ne suis pas diplomate, je n'ai ni drapeau, ni patrie. Je ne suis pas rouge écarlate, ni bleu, ni blanc, ni cramoisi. Je suis d'abord un cri pirate de ces cris-là qu'on interdit. Je ne suis qu'un cri. Je ne suis pas cri de plaisance, ni gueulante de comédie. Le cri qu'on pousse en apparence pour épater la compagnie. Moi, si j'ai rompu le silence, c'est pour éviter l'asphyxie. Oui, je suis un cri de défense, un cri qu'on pousse à la folie. Je ne suis qu'un cri. Pardonnez si je vous dérange, je voudrais être un autre bruit, être le cri de la mésange, n'être qu'un simple gazouillis, tomber comme un flocon de neige, être le doux bruit de la pluie. Mais je suis un cri qu'on abrège, je suis la détresse infinie. Je ne suis qu'un cri.
Et vous, monsieur Molin, vous participez un peu à tout à Miribel ?
J'ai trois casquettes. J'ai la casquette de lire et faire lire, j'ai la casquette de la bibliothèque, bénévole à la bibliothèque, bénévole à lire et faire lire, bénévole à la Bible, et je suis aussi conseiller municipal depuis 10 ans à la commission culture.
Mais voilà. Vous êtes de Miribel, vous connaissez bien le village ?
Je suis de Miribel depuis 1990.
Ah oui, c'est récent.
Mais je suis né à Villette. J'habitais sur les coteaux de Villette.
Et vous ?
Alors moi, je ne suis pas miribélin, mais je suis arrivé à Saint-Laurent-du-Pont, mais pour des raisons professionnelles, en 2003.
Ah oui, c'est très récent.
C'est plus récent, oui.
Donc, content d'être en Chartreuse ?
Ah, tout à fait. Tout à fait.
Maintenant, un petit supplément, ça c'est pour la route. Hein. Les enfants de Madame Choupin ont demandé à Monsieur le maire s'il voulait bien lire une fable de La Fontaine. Monsieur le maire, c'est à vous. Voilà.
Merci les enfants. Donc j'ai pris une fable au hasard qui s'appelle « Le jet paré des plumes du paon ». Un paon muet. Un jet prit son plumage. puis après se l'accommoda. Puis parmi d'autres pans, tout fier se panada, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut, il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué, et par messieurs les pans plumés d'étranges sortes. Même vers ses pareils s'étant réfugié, il fit par eux mise à la porte. Il est assez de jets à deux pieds comme lui, qui se part souvent des dépouilles d'autrui, et que l'on nomme plagiaire. Je m'en tais, et ne veux leur causer nul ennui. Ce sont pas là mes affaires. Jean de La Fontaine.
Moi, je peux faire un petit rajout,
oui,
pour lire et faire lire. On intervient aussi à Bébébus, à Bébébus, à Miribel-les-Échelles et à Saint-Christophe-sur-Guiers. Et si quelquefois à Saint-Pierre-d'Entremont, là c'est un peu loin, on y va moins souvent, mais on intervient à Bébébus. Pour intervenir à Bébébus, lire et faire lire, c'est patronné dans l'Isère par la FOL, la Fédération des œuvres de l'Isère, la Ligue de l'enseignement, et ils nous forment pour aller lire au bébé. Hein. On en a à partir de 8 mois jusqu'à 3 ans. On a quand même une formation qui se déroule à Grenoble, à la Pouponnière. Et maintenant, les petits mondes de 3 ans vous accueillent quand vous y allez, bras ouverts.
Alors le bébé bus, je pense que vous connaissez, hein, c'est une crèche itinérante,
voilà, oui,
qui est gérée par la communauté de communes et qui est organisée dans chaque village un jour précis. Quoi. Et à Miribel, c'est le lundi.
Donc vous n'avez pas besoin de bénévoles en fait?
Si, parce que la tranche d'âge étant au summum, maintenant il faut que je me retire et il faudrait besoin d'avoir d'autres bénévoles.
Bon, ce serait dommage, on vous sent bien à l'aise.
Oui, mais petit à petit. J'étais pendant 6, 7, 8 ans relais local de lire et faire lire. J'ai plus le titre. Mais je continue à être relais local, parce qu'à Miribel, on est quand même 5 bénévoles de lire et faire lire. On intervient aux deux maternelles, aux deux classes de maternelle. Nous intervenons également aux trois classes de primaire et aux trois endroits de bébé-bus. Et nous sommes 5 bénévoles. Voilà.
Bon. Est-ce qu'on a fait le tour de la question ou est-ce que vous avez des choses à rajouter ?
Non, je crois qu'on a été très complet. Donc, encore une fois, là, ce qu'il faut dire, c'est que ce programme, en fait, cette opération, s'inscrit en fait dans un programme annuel. Hein. Alors, j'avais oublié de préciser aussi, le programme annuel culturel, là, on est en train, on l'a bâti avec une association qui s'est créée. Qui est l'association de la chapelle de l'Alumna.
Ah oui.
Que je crois que vous allez recevoir bientôt.
Voilà.
Et là aussi, si je veux faire de la publicité, il y a un concert le lendemain, donc le 9 juin, mais je pense que les responsables de l'association vous en parleront.
Oui.
Donc, vous voyez, on est très dynamique, effectivement, dans ce village.
Voilà. Il y a combien d'habitants au total ?
1800 à peu près, un peu moins de 1800.
Bon.
On a du brouillard dans le cigare, mais on refuse d'être dans le cirage. Dans le bordel en cigare, c'est pas qu'on essaye pas d'être sage. On en trouve encore à nous dire qu'on n'a rien compris à la vie.
C'est la fin de ce bouillon de Chartres spécial lecture. On sait maintenant comment ça se passe en 2018 et dans les villages dynamiques comme Miribel. Donc rendez-vous à tous pour le prochain épisode de Bouillon de Chartreuse.
Alors, c'est quoi ? C'est ça la vie, hein. Ben ça résonne. Boum, boum, banane, ma coupe par terre, un coup de boum, boum, banane, ma coupe, t'es bien la terre, boum, boum, banane, tu pioches dans l'or, dans la boum, boum, banane, ta tête, t'es calme ou bien la boum, boum. Badaboum. Si on sait pas tout le temps bien fait, c'est qu'on comprend rien au bazar d'un bon Dieu ou d'un Lucifer. C'est quand que c'est bien, c'est quand que c'est mal. Alors ben devine, on devine, et même des fois où on s'en doute, on danse dans un champ de mine, puisqu'il y a 3 milliards de routes. Une tête, un corps, un palpitant, et démerdez-vous mes chéris, on n'est pas armés pour longtemps, mais j'ai un pote, il dit que ça suffit. Alors, C'est quoi? C'est ça la vie, hein? Bah ça résonne.
Boum, boum, un coup par terre, un coup de boum, boum, paraboum, un coup t'es bien lancé à boum, boum, paraboum, tu pioches dans l'or, dans la boum, boum, paraboum, t'as déjà fait calme au bal, boum, ma boum, paraboum, hein.
Oh, ça empêche pas de dire bonjour, ça empêche pas les éclairs, je te parle pas des histoires d'amour. Poulet qu'on a fait cuire, on comprend rien, mais on y va et c'est là que ça devient beau. C'est parce qu'on est tous dans le même cas, faut avouer que c'est rigolo. Alors si tu parles, je me tais, et puis si tu ris, ben je pleure. Faut juste qu'on soit et tout ça s'aimer. À part machin là, et sa sœur.
Boum, boum, paraboum, un coup par terre, un coup de boum, boum, paraboum, t'es bien loté à boum. Boum, paraboum, tu pioches dans l'or ou dans la boum. Boum, paraboum, ta tête t'es calme ou calme. Boum, boum, ah, ah,
paraboum.
Chanson, pas chanter.
Mais alors vous vous en sentez pas alors?
Mais si.
Ben non.
Mais non, je suis con quoi.